Une question pour commencer. Vous est-il déjà arrivé de désespérer? Durement éprouvé, vous attendiez à ce que Dieu se manifeste, à ce que Dieu vous arrache à votre triste condition, et Dieu n'a pas bougé. Vous l'avez appelé à l'aide, mais en vain. Vous avez commencé alors de douter jusqu'au jour où vous vous êtes senti sombrer. Si cette douloureuse expérience vous rappelle quelque chose, eh bien sachez que vous n'êtes pas un cas à part d'autres, et non des moindres, ont connu pareille dérive et jusqu'au plus grand. Jérémie, par exemple. Jérémie, l'immense prophète, si grand qu'on le présente parfois comme un type, une préfiguration de Jésus. Eh bien, Jérémie a connu des périodes de désespoir extrême. Jérémie. Un livre en témoigne dont le titre est révélateur, Lamentation. Pour un chrétien, ça ne le fait pas, quoi. Lamentation. Toujours se réjouir. Lamentation. Lamentation parce qu'écrit dans les larmes par un géant de la foi, brisé. Alors quelques mots pour replacer ce livre et le texte, surtout qui retiendra notre attention dans leur contexte. Nous sommes en 587-586, on hésite, avant Jésus-Christ. Pour avoir cru assurer sa protection en s'alliant à l'Égypte, Tyr, Ammon et Édom, Jérusalem est tombée. Jérusalem est tombée aux mains de l'ennemi babylonien et les troupes de Nabucodonosor l'ont soumise à un véritable sac. Son temple a été incendié, ses fortifications démantelées et plusieurs centaines de citoyens déportés, une fois de plus. La ville et sa province sont proprement dévastées. J'ai de la concurrence, là. D'où la déchirante complainte de Jérémie. Et là, je vous renvoie au tout début de ce livre des Lamentations. Je cite, « Elle est assise en solitaire, cette ville si peuplée. Elle est pareille à une veuve. » Elle qui était grande parmi les nations, elle qui était une princesse parmi les provinces, la voilà maintenant astreinte à la corvée, elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Juda est en exil, accablé par la misère et un grand esclavage. Il habite au milieu des nations sans y trouver de repos. Tous ses persécuteurs l'ont rattrapé au beau milieu des détresses. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Pourquoi ? Pourquoi pareille déchéance frappant une cité, jadis élue de Dieu ? Réponse du prophète, chapitre 1, verset 5, à cause du grand nombre de ses transgressions. C'est pourquoi, écrit-il, l'Éternel l'a plongé dans le chagrin. L'Éternel l'a plongé dans le chagrin. C'est que Dieu est aussi un Dieu jaloux, qui ne peut céder sa gloire à personne et qui peut se montrer terriblement violent à l'encontre de ceux qu'il a tendrement aimés et qui lui ont retiré leur confiance, quand ils ne se sont pas purement et simplement retourner contre lui. Un rappel nécessaire, me semble-t-il, pour une génération comme la nôtre en particulier, qui, lorsqu'elle songe encore à Dieu, aime à se le figurer si foncièrement doux qu'il en serait devenu totalement inoffensif. Erreur, grossière erreur. Si Dieu aime à se présenter comme un trésor de grâce, il lui arrive aussi d'apparaître en feu dévorant. Qu'ainsi chacun d'entre nous se le tienne pour dit, mieux vaut ne pas le provoquer. Par exemple, en accordant à un autre ou à autre chose que lui-même l'attention, l'attachement et la confiance qu'il est seul à mériter pleinement. Mais revenons à la douleur de Jérémie, telle qu'exprimée dans ses lamentations, et plus particulièrement en son troisième chapitre, élégie d'une tristesse et d'une poésie bouleversante. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Le texte figure à la page 920 des Bibles qui se trouve devant vous. Je cite la page, parce que je ne suis pas sûr que tous ici soient des lecteurs réguliers et assidus du livre des Lamentations. Lamentation, donc, chapitre 3. « Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres. » comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies. Il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie à longueur de journée. Je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères. Il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Parole de Jérémie, élu de Dieu, prophète hors pair, parangon de courage et de foi. Je sombre. Étonnant, non? Et pourtant, la preuve est là, Jérémie déjà a connu la désespérance. Et nous touchons à notre premier chapitre, un désespoir extrême. Reprenons, si vous voulez bien, brièvement son témoignage. Qu'il parle en son nom propre ou qu'il se veuille l'interprète d'un dernier carré de fidèles, importe peu. Le fait est que tout Jérémie qu'il est, il n'est pas seulement consterné, il est abattu, brisé, anéanti. Et il y a de quoi. Ayant choisi de le considérer comme solidaire de ses concitoyens, le Seigneur, son Dieu, lui a fait connaître le bâton de sa fureur. Verset 1. L'a frappé dans sa chair, verset 4. L'a comme emmuré dans la douleur de façon à ce qu'il ne connaisse plus le moindre répit. Verset 5 et 15. L'a plongé dans les ténèbres, verset 6. Lui a fait subir le supplice babylonien de l'enfermement, lui assurant ainsi une fin prématurée. Verset 7, verset 9. S'est comporté à son égard comme un ours ou un lion, verset 10. La mise en pièces, verset 11, verset 16. La criblée de flèches, verset 12 et 13. L'a exposé enfin à la risée du peuple, verset 14. Pour une sanction, c'est une sanction. Mais il y a pire encore. Pire? Oui, pire. Bien pire même. Le Seigneur n'entend plus ses prières. Le Seigneur n'entend plus ses prières. Verset 8, « J'ai beau crier et implorer du secours, se lamente Jérémie, il tient ma prière enfermée. » ou comme le rend la Bible de Jérusalem, « Quand même je crie et j'appelle, il arrête ma prière. » Pour le fidèle, il n'est pas d'expérience plus désespérante que celle-ci. Prier et se heurter à l'insoutenable silence de Dieu, adresser un appel d'urgence et lire sur son écran « Votre correspondant ne répond pas, ne répond plus, est désormais injoignable. » L'épreuve est alors extrême et le désespoir qu'elle génère, abyssal. Jérémie en témoigne ici, dont la déréliction, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, qui est un mot important, j'en ai donné la définition, vous l'avez sous les yeux, vous qui avez eu la bonne idée en entrant, d'emporter avec vous un plan de ce message. Jérémie en témoigne ici, dont la déréliction, douloureuse préfiguration de celle absolue, elle, de Jésus sur la croix, est terrifiante. Versets 17 et 18, « Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. » Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Vous imaginez l'un d'entre nous annoncer ça du haut de la chair. Et la fin du verset 20, je sombre, je coule. Terrible, exceptionnel pour autant, pas sûr. D'autres en effet, fidèles pourtant, eux aussi, ont connu depuis semblable désespérance. Sans aller jusqu'à prétendre avoir jamais vécu pareil abandon divin, certains parmi nous pourraient rendre témoignage eux aussi. Ils ont appelé Dieu au secours. Ils l'ont supplié, sinon d'intervenir, de leur adresser au moins une parole de réconfort. Et leur requête est restée sans réponse, comme si elle s'était perdue dans les espaces infinis. Vous peut-être, toi aussi, mon ami. Mystère des arrêts divins. Dieu peut choisir de ne pas nous épargner et de nous faire subir à nous, ses enfants, les lourdes conséquences de fautes commises par d'autres, mais dont il nous considère comme solidaires. Et par exemple, pour reprendre l'expression de Jérémie, tenir un temps ou longtemps notre prière enfermée. Parce que notre génération s'est détournée de lui, qu'il n'y a pas de raison évidente pour que nous échappions toujours et en tout à son sort. Pour autant, faut-il que nous en tirions la conclusion que Dieu nous a abandonnés ? Non, bien sûr. Car pour qui, à l'oreille du fidèle, le silence de Dieu n'est jamais absolu. Jamais absolu. Quand bien même elle seule nous parviendrait, cette voix est toujours perceptible, qui nous promet, Ésaïe 54, verset 10, tel que rendu par la Bible en français courant, même si les montagnes venaient à changer de place, même si les collines venaient à s'ébranler, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Et au chapitre 49, les versets 15 et 16, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit ? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté ? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Et sans doute est-ce cette voix que Jérémie perçoit ici et qui provoque en lui un sursaut exemplaire. Un sursaut exemplaire, notre deuxième chapitre. Verset 21 d'abord. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Ou comme le rend la Bible de Jérusalem, « Voici ce qu'à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir. » Jérémie était comme submergé par le désespoir, et voici qu'il se reprend, qu'il se secoue même. Ce murmure divin, « Non, Jérémie, je ne t'ai pas oublié. Comment le pourrais-je ? J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. » Ce murmure divin, sa foi l'a détecté. au cœur d'un silence d'autant plus insoutenable qu'il semblait absolu et définitif. Et c'est comme s'il se reprochait maintenant de s'être laissé aller un peu vite à la désolation, et que se reprenant vigoureusement, il s'imposait, plutôt que de garder le regard rivé sur le spectacle affligeant d'une déchéance pathétique, de lever les yeux, d'oublier pour l'heure sa misère et celle de son peuple, le temps, juste le temps, de se remémorer ce qu'il sait de ce Dieu à jamais engagé à son côté. Et que ces circonstances adverses avaient fini par lui voiler. Voici, tranche-t-il, ce que je veux méditer. Pour reprendre espoir, un acte de volonté donc, qui pour nous vaut exemple. Les épreuves en particulier ont au fait de nous accabler, et je parle d'expérience, au point qu'il nous arrive, à nous aussi, de verser lentement dans une forme d'amnésie spirituelle, prompte à faire de nous des hommes et des femmes désabusés, abattus, voire proprement désespérés. Et si, pour reprendre espoir, plutôt que de baisser les bras et nous abandonner alors à la mélancolie, au chagrin, à la désolation, à la désespérance, nous décidions, comme Jérémie, nous décidions de nous ressaisir et de lever à notre tour les yeux. Et avec lui, Jérémie, de nous ressouvenir. Nous ressouvenir de tout ce que nous savons nous-mêmes de Dieu, de sa personne en particulier, tel que la dessine cette personne, l'ensemble de ses perfections. Il y a tout lieu de penser qu'alors notre propre métamorphose ressemblerait étrangement, elle aussi, à celle du prophète, lequel, aussitôt, ou après qu'il s'est vigoureusement imposé un temps de recueillement, de méditation et de contemplation, a retrouvé le vrai visage de Dieu et s'en est trouvé immédiatement réconforté, revigoré, ragaillardi. Reste à savoir ce qu'il a vu et qu'il a à ce point requinqué. Et nous touchons là à notre troisième et dernier chapitre, une vision décisive, Décisive au sens où elle emporte l'adhésion du prophète et met fin à son tourment. Quelle est cette vision qu'il me semblait nécessaire de replacer dans son contexte, ce que nous faisons rarement? Quelle est cette vision? Celle d'un Dieu à la fois incroyablement bon et fidèle. Verset 22 et début du verset 23 d'abord, notre devise pour l'année 2017, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Fin du verset 23 ensuite, que ta fidélité est grande. Reprenons un à un les différents éléments de ce qui relève d'une véritable déclaration de foi. Et je dis bien de foi. L'environnement de Jérémie n'a pas changé, non plus que sa situation. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel, le terme qu'a retenu Jérémie, bonté, chesed en hébreu, renvoie à l'une des perfections les plus lumineuses de l'être divin, la loyauté. Et plus particulièrement sa loyauté à l'égard de celles et ceux avec qui il a conclu un pacte. Vous et moi donc, dans la mesure où nous appartenons à ce peuple hautement privilégié, auquel Dieu s'est lié un jour par une alliance, scellée par le sang de Jésus, comme nous l'a rappelé le geste que nous avons accompli au début de ce culte. Mais ce terme est au pluriel dans notre texte. Nous nous concluons que ce que le prophète nous invite ici à nous remémorer est moins la loyauté en elle-même de l'Éternel que ses manifestations répétées dans la vie de ses protégés. Et que nous dit-il de ces manifestations ? Qu'elles ne sont pas épuisées. Et ce témoignage est essentiel. De même que Jérémie a pu être décontenancé par le silence de Dieu, de même il nous arrive d'être déstabilisé, parfois profondément déstabilisé, par l'absence prolongée de preuves de sa grâce. Dieu se serait-il éloigné ? Dieu nous aurait-il abandonné ? Non, tranche Jérémie, ses bontés ne peuvent pas s'épuiser. Elles sont par essence inépuisables. Attendez seulement. Faites preuve d'un peu de patience. Et vous en reverrez bientôt les marques rassurantes. Oui, mes amis, patientons. Il se peut que nous peinions ce matin à voir les marques de sa grâce. Nous avons beau scruter notre univers, cet environnement, nos circonstances. Il se peut que nous peinions ce matin à voir les marques de sa grâce et que nous en soyons nous demander « Mais où est mon Dieu ?» Et là je dis « Oh les cœurs, mes amis, ces marques sont là, elles sont présentes. » Et si nous ne les voyons pas clairement aujourd'hui, c'est possible. Elles seront le sujet de notre joie demain. Ces marques sont là. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pas plus que ses compassions ne prennent fin, seconde partie du verset 22, ses compassions ne prennent pas fin. L'accent est mis ici sur l'amour dont Dieu entoure toutes celles et tous ceux avec qui il s'est lié de façon irrévocable, son amour. Un amour unique, tendre et riche en bonté, qui ne s'irrite pas facilement, mais qui sait faire preuve de compassion. Et surtout, aime à faire grâce, aime à pardonner, aime à effacer, aime à oublier. Mais on notera ici encore que le mot retenu est au pluriel, lui aussi. Pourquoi ? Parce qu'il en va de l'amour de Dieu comme de sa loyauté. C'est par ses manifestations infiniment variées que nous le percevons, cet amour. Ce qu'il nous faut donc nous imposer régulièrement de faire aujourd'hui, c'est d'en repérer dans nos vies les marques. Des marques discrètes le plus souvent, mais si précieuse pour celles et ceux dont le regard a été aiguisé par la foi. Et que nous dit cette fois Jérémie de ces expressions polychromes, si je puis dire, de l'amour incomparable dont Dieu a choisi d'entourer les siens, nous entourer ? Que nous dit-il ? Qu'elles ne prennent pas fin. Littéralement, qu'elles ne connaissent pas de limites, qu'elles sont infinies, qu'elles sont éternelles. Prodigieuse assurance. Non, mes amis, non, l'amour de Dieu, cet amour dont il nous a donné d'entrevoir la démesure à la croix. Cet amour ne saurait faiblir, encore moins disparaître. Ni les grandes eaux, pour reprendre la métaphore du poète, ni les fleuves ne l'éteindront jamais. Et Jérémie est bien placé pour le savoir, à qui l'Éternel déclara un jour, Jérémie chapitre 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. » C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Plaise à Dieu que dans les moments d'angoisse, de doute, voire de désespoir qui nous arrivent de vivre, nous fassions le bon choix, celui de Jérémie, lever les yeux, et dans le calme et la confiance, méditer ces vérités et, comme le prophète, reprendre espoir. Dieu nous aime. Mais il y a plus encore. début du verset 23, elle se renouvelle chaque matin. Elle, oui, les marques de la bonté, de la loyauté et de l'amour de Dieu. Elle se renouvelle chaque matin, nous dit Jérémie. Tel le soleil qui ne manque jamais de s'élever dans le ciel, elles surgissent chaque jour à nouveau, répandant leur salutaire clarté dans nos cœurs assombris. Que celui qui a des yeux regarde bien. Bien avant Jérémie, Ésaïe l'avait compris, qui priait, je cite, « Éternel, fais preuve de grâce envers nous. Nous comptons sur toi, sois notre force chaque matin et notre salut lorsque nous sommes dans la détresse. » Mais il y a plus ici qu'une mise en valeur du retour attendu des manifestations de la loyauté et de l'amour de Dieu. Est également suggérée leur parfaite adéquation aux besoins quotidiens de ceux qu'il chérit. Leur parfaite adéquation. Ces grâces, les grâces de Dieu, ne sont jamais définitivement suffisantes. Il les renouvelle en fonction à la fois des défis qui s'imposent à nous, jour après jour, et de notre dépendance de lui. D'où la nécessité pour nous de retourner à lui chaque matin, la main tendue, la main tendue. Mais avec cette assurance que nous repartirons riches, riches de ressources toutes fraîches, riches de ces ressources toujours neuves qui nous permettront de vivre le jour qui vient, mais celui-là seulement, d'une manière qui l'honore, le glorifie, l'enchante. Oui, les marques de sa grâce, c'est un peu comme la manne dans le désert, pour ceux qui se souviennent de cet épisode si célèbre de l'histoire du peuple d'Israël. C'est un peu comme la manne dans le désert, une sorte de pain quotidien, je parle de ses grâces, une sorte de pain quotidien descendant chaque nuit avec la rosée, suffisant pour la journée, mais pour la journée seulement, impossible d'en faire provision pour le lendemain, et qu'il fallait donc retourner ramasser chaque matin au lever du jour. Manifestant par là un haut degré de dépendance. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin et ne demande qu'à nous l'accorder, mais mes amis, un jour à la fois. Un jour à la fois. C'est pourquoi Jésus estime déraisonnable de s'inquiéter pour le jour d'après. Un jour à la fois. Oh, puissions-nous, dès le réveil, le prier donc de pourvoir en fonction de ce qu'il sait, lui, nous être nécessaire, et de pourvoir selon la richesse de sa grâce. Avec cette assurance qu'il exaucera notre prière, jour après jour, fidèlement, ce matin pour aujourd'hui. Et nous aussi parvenus à notre conclusion, c'est Jérémie lui-même qui nous en offre les termes, fin du verset 23. Que ta fidélité, ô Dieu, que ta fidélité est grande. Et n'oubliez pas dans quel contexte il le dit. Dans quel contexte? Que ta fidélité, ô Dieu, est grande. Oui, que sa fidélité est grande. Sa bonté s'élève jusqu'au ciel, chantait déjà David, et sa fidélité atteint les nuages. Une vérité largement attestée et comme redécouverte par Jérémie au moment même où le désespoir l'a gagné et menace de l'engloutir. Une vérité à laquelle nous pouvons aujourd'hui nous accrocher, nous agripper, nous cramponner tout à la fois. Chaque fois en particulier que secoué par je ne sais quelle tempête, je connais les miennes, pas les vôtres forcément, secoué par je ne sais quelle tempête, extérieure ou intérieure. Et nous heurtant à l'insoutenable silence de Dieu, nous commençons de douter, et comme le prophète, de sombrer. Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle.
Et c'est à cette fidélité divine, imprescriptible, inaltérable, indéfectible, et à elle seule, que nous devrons toujours d'espérer encore et encore, d'espérer toujours. Alors même que tout serait ténèbres autour de nous, et qu'aucune lueur ne paraîtrait. C'est à cette fidélité toujours jeune de Dieu, une fidélité toujours jeune, et à elle seule, que nous devrons jusqu'au bout de croire, et nous avons raison de le croire, que le meilleur est à venir. Et ce faisant, comme Jérémie toujours, de reprendre espoir. Psaume 30, verset 6. Au soir, la visite des larmes, au matin, les cris de joie. Amen.